La conception virginale de Jésus, à mes yeux, n'est pas du tout une sorte, au fond, de prodige païen par lequel se mêlerait un élément divin et un élément humain, mais c'est aussi une indication de rupture. Je dirais, mais ça va demeurer énigmatique, je dirais qu'à mes yeux, Jésus appartient à la généalogie de David par Joseph, mais il appartient à la non-généalogie par cette espèce, au fond, de coupure, un peu de l'ordre de qui n'est pas un miracle de parthénogenèse, qui n'aura absolument aucun sens théologique, mais qui est une espèce de coupure des généalogies pour qu'ici intervienne à nouveau la puissance créatrice de l'Esprit de Dieu. Maintenant, ma troisième et dernière partie, procès moral. Alors, je voudrais reprendre en terminant cette compréhension de la conscience, scrupule ou légalisme, qui est sans doute la partie où nous pouvons tous réfléchir. Je dirais d'abord de manière positive que plus l'homme vit en conscience, plus il vit de manière morale. J'entends par conscience, c'est l'étymologie, savoir avec, c'est-à-dire la capacité non pas de se prendre pour sa propre autonomie. Finalement, le contraire de la conscience, c'est au fond la justification de soi. Mais la conscience, c'est quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui se dit, qui se dédouble. Hegel a toujours pensé qu'elle était malheureuse, mais moi je veux soutenir qu'elle doit être heureuse. D'ailleurs, le grand thème, c'est vivre votre vie en bonne conscience, pas en mauvaise conscience. La bonne conscience, c'est la capacité de faire quelque chose en se disant ce que je fais là, c'est une chose dont je suis convaincu, et c'est une chose dont je pense qu'elle est bonne devant Dieu, et dont je pense que Dieu la souhaite. Et par conséquent, la conscience, c'est la forme, c'est la force de l'homme. Quelqu'un qui vit en conscience, c'est pas quelqu'un qui vit en propre satisfaction, c'est quelqu'un qui vit en robustesse avec lui-même. Si vous n'avez pas de conscience, vous êtes, je dirais, voué à tous les vents qui vous entourent. C'est votre robustesse intérieure, et si ça peut être une conscience religieuse, c'est une conscience qui est tenue par quelqu'un d'autre que le propre opinion que j'ai de moi-même. Donc, je voudrais en premier lieu dire combien l'homme de la conscience, c'est l'homme fondamentalement robuste, et quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas de conscience, ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un de vide, finalement. Il est le lieu de passage des opinions diverses qu'il rencontre, ou des modes au milieu desquels il se trouve, et en ce sens, je n'ai aucune gêne à faire l'apologie de la conscience, bien qu'on ait dit qu'elle était le reflet, la superstructure, des conditions, je ne crois pas du tout. Je crois que la conscience est fondamentalement la robustesse intérieure de quelqu'un qui est capable de dire oui ou non, en sachant pourquoi. Ceci dit, il y a une pathologie de la conscience. Et là, nous la connaissons bien, vous devez aussi la connaître, et je ne vais parler que de la mienne. C'est ce qu'on appelle le scrupule, mais il y a à mes yeux beaucoup plus ténébreux que le scrupule, qui est l'angoisse. Le scrupule, c'est l'indécision. C'est quelqu'un qui continuellement se trouve, on pourrait dire, comme l'âne de Buridan, à ne jamais savoir parce qu'il voit l'avantage ou le désavantage. C'est quelqu'un qui est incapable d'agir parce qu'il est perpétuellement en interrogation sur lui-même. Et le scrupule, au fond, c'est celui qui est privé de l'action et privé de l'affection parce qu'il est plongé dans l'indécision. Et en un certain sens, c'est possible. Je ne crois pas que c'est la maladie tellement moderne. Mais enfin, nous avons bien connu des quantités d'époques où, effectivement, le scrupule a été une pathologie paralysante. Mais il y a plus grave, me semble-t-il, que le scrupule, c'est l'angoisse. Vous savez qu'angoisse vient de angustia, c'est-à-dire étroit, ce qui finalement vous fait passer par l'étroitesse, la gorge serrée. L'angoisse, c'est le sentiment que votre conscience agit en vous comme une sorte de bâillon qui en permanence, au fond, vous empêche de vivre et d'une certaine manière vous autodétruit. On a suffisamment entendu le Freudisme parler là-dessus pour que je n'en parle pas davantage, mais il y a effectivement dans le problème de la conscience en tant que angoisse tourmentante ou instance destructrice Quand j'étais pasteur, je me rappellerai toujours un paroissien qui m'avait dit, il devait avoir 40 ans à ce moment-là, il m'avait dit, ce que je reproche le plus à l'Église, c'est de m'avoir donné une conscience en me donnant un catéchisme, parce que c'est ce qui a empêché ma vie de s'épanouir. C'est le problème classique, hein. C'est-à-dire, de quelle manière la conscience... C'est les gens qui regrettent d'avoir eu une éducation consciencieuse parce qu'au lieu que ça leur ait représenté une robustesse, ça leur a représenté un tourment. Et en ce sens, il y a là un problème pathologique, hein, donc qu'il faut que nous considérions. Alors, je voudrais terminer sur deux points positifs. Je pense que notre vie doit être fondée sur deux piliers. Ça m'intéressera de savoir dans quel ordre vous les mettez. Je vais vous dire dans quel ordre je crois que vous les mettez, et je crois que je les mets, puis on verra. C'est mon grand reproche au Testament de Dieu de Bernard-Henri Lévy, au point de vue théologique, c'est qu'à mes yeux, il n'a qu'un pilier. Alors, les deux piliers, je crois que c'est la sainteté et le pardon. Je crois que si vous n'avez que la sainteté, vous avez une sorte d'exigence incontournable qui peut devenir, un peu d'ailleurs ce qui est quelquefois l'impératif catégorique chez Kant, hein, qui peut devenir une sorte au fond d'obligation telle que vous êtes redressé, mais aussi condamné et éventuellement perdu par cette obligation. Il n'y a pas de possibilité, si vous avez raté quelque chose, que ce ratage ne soit pas la destruction de votre existence. C'est pourquoi je crois que les deux piliers, c'est le commandement de la sainteté de Dieu et les rituels et les paroles par lesquelles il est toujours dit que Dieu est celui qui donne pardon à celui qui a violé sa sainteté. Je crois que c'est les deux piliers d'existence. Alors j'ai le sentiment, mais là c'est une proposition, que vous mettez Torah d'abord, sainteté de la Torah, et puis le pardon, les possibilités d'expiation, de telle manière que l'homme soit réintégré dans le peuple saint. Et que peut-être nous mettons le pardon, si c'est cela au fond que pour un chrétien représente par exemple, je ne sais pas, la croix de Jésus-Christ, ou les sacrements, ou le fait qu'au fond nous commençons par une sorte de pardon initial, et après l'obéissance. Et le mot, je voudrais en aucun cas donner le sentiment que le juif c'est celui qui vit en observant la loi, et le chrétien, c'est celui qui profite de la grâce. Vous voyez, c'est peut-être le sentiment par lequel, au fond, l'un serait dans l'exigence de la loi et l'autre serait dans le profit de la grâce. Je dirais plutôt que nous, il me semble que cet ordre, le pardon, pousse à l'obéissance. Et ça me paraît important, et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous ressentez ce rapport des deux piliers sur lesquels, à mon avis, nous pouvons fonder, et c'était le titre de ce soir, une acuité de la conscience, sans tomber dans la maladie du légalisme. Et enfin, ma dernière remarque, c'est que certainement, nous avons là un procès de toute heure. Je ne sais pas si c'est un procès entre chrétiens et juifs, ou si c'est un procès entre Bible et paganisme, ou si c'est un procès de manière beaucoup plus générale, entre le fait que l'homme doit vivre d'exigence, mais il ne doit pas être perdu par l'exigence. Il faut trouver l'absolu. Ça y est, un mot de Merleau-Ponty qui m'avait beaucoup frappé. Merleau-Ponty avait dit « L'absolu, c'est ce qui tue l'existence humaine. » Alors, comment faire pour que nous ayons une conscience rendue aiguë et tendue? C'est aussi un peu le mot de Nietzsche quand il disait « L'homme doit être un arc tendu. » Quand il avait toujours peur que le dernier homme, ça soit cette espèce aux formes détendues sans exigence. Comment avoir des exigences dans sa vie, et je n'oublie pas que toute la semaine était sur ces hommes de l'exigence, les séparés par l'exigence qu'à mes yeux demeurent les pharisiens, sans tomber dans la destruction que peut faire l'exigence en l'homme, quand finalement il doit bien reconnaître que cette exigence peut devenir une condamnation s'il n'y a pas pour lui une sorte de cadeau. Comment vivre la vie en étant d'une part exigeant et d'autre part en étant recevant. Et c'est cela, au fond, que je voudrais prendre ces quelques réflexions que je vous ai apportées pour que maintenant nous échangions.
Eh bien, monsieur le pasteur, je vous remercie. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Et je ne sais pas si nous aurons le temps ce soir de revenir sur, il faudrait sur pratiquement tous les points de votre exposé, très clair dans ce qui a été dit, dans ce qui est aussi, et dans ces silences. Je vous demande la permission de dire quelques phrases d'introduction à ce débat. J'espère qu'une partie de l'assistance a encore en tête les analyses, autant que se peut, de lundi soir et de mardi soir. Il me semble, voyez-vous, que nous pourrions peut-être économiser le débat sur la première partie de votre exposé. En ce sens, je pourrais vous donner énormément de citations du Talmud lui-même, que tout ce que vous avez dit des dangers du pharisaïsme formellement, eh bien, se trouve déjà dans la critique que le Talmud fait des faux pharisiens, et pris dans le sens de parouche séparé d'observance de la loi. Et que, finalement, ce que vous avez dit pourrait aussi s'appliquer à d'éventuels pharisiens chrétiens, à d'éventuels pharisiens musulmans, à d'éventuels pharisiens bouddhistes, communistes ou même humanistes, tout simplement. Alors je crois que nous sommes déjà éclairés sur ce premier point. Et je vous remercie d'avoir bien précisé, je l'avais fait dans d'autres termes lundi soir, que finalement ce que nous appelons l'aventure chrétienne se détache du pharisaïsme beaucoup plus que de tout autre groupement juif de cette époque. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à ce sujet, et aussi d'avoir dit très clairement, bien que uniquement dans une phrase, que la séparation a d'abord été essentiellement nationale. Et parce que c'est encore un problème qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, dans ce problème très, très profond de la, rivalité, ça s'est finalement instauré en rivalité de deux Israël. Je dirai tout à l'heure peut-être, si le débat me donne l'occasion, de revenir sur ce point. Je ne parlerai pas personnellement de la personne de Jésus dans ce débat. Je préférerais parler de la conscience du fait de croyance des premiers chrétiens. Et vous me permettez de le dire simplement en quelques phrases et nous reviendrons peut-être, si nous en avons l'occasion, sinon à la table ronde, sur ce qu'a été l'objet de nos communications dans cette semaine qui est réussie. Je pense personnellement qu'il n'y a pas d'existence historique d'une personne qui aurait été Jésus-Christ, mais le fait historique est l'objet de croyance des premiers chrétiens. Et que représente aux yeux d'un juif de la tradition pharisienne cet objet de croyance, c'est à décrypter, à décoder dans des mises au point Romrim Hadadiot mutuelles que je souhaiterais voir s'inaugurer. Je vous remercie d'avoir été dans votre exposé authentiquement vous-même et de n'avoir pas à chercher à nous présenter l'exposé d'une thèse d'un protestant judaïsant par commodité. De ça, je vous en remercie. Et puis, j'en arrive au fond à la remarque que je voudrais un petit peu analyser en introduction à ce débat. Nous aurions questions et réponses sur tous les points de votre exposé. Mais je pense que là, vous avez touché un problème important, Abraham et Moïse. Je sais que ce thème était extrêmement important. La vocation de la foi, Abraham, la vocation de la loi, Moïse, qu'Abraham a précédé Moïse, mais dans quelle finalité, selon le récit biblique? Je voudrais me borner à lire trois versets pour indiquer que peut-être il faut une mise au point beaucoup plus profonde que je n'ose pas dire les clichés, ce serait péjoratif, enfin que les schémas habituels que nous entendons au sujet de ce thème, Abraham et Moïse. Lorsque Dieu, au chapitre 18 de la Genèse, s'adresse à Abraham pour introduire l'expérience qu'Abraham va faire de la volonté de Dieu à propos de Sodome et Gomorre, et qu'il dit ceci, le texte dit ceci, « Vachem amar » et Dieu a dit à Abraham, « Amchase anime Abraham, vesh caché d'Abraham, asherani osé » la manière dont j'interviens dans le monde. Abraham, or Abraham est destiné à devenir une nation grande et puissante. Et seront bénis en lui toutes les nations de la terre. C'est ce verset 19 du chapitre 18 qui me semble important pour cette mise au point. Qui yedartiv, je vais lui faire connaître, sous-entendu mon nom, donc ma volonté, ma loi. Lemaram, afin que Asher Yetzave, qu'il ordonne, ordonne dans les deux sens, donner l'instruction et donner les instructions. Et Edbanav et Beto Acharav, ses fils et sa maison après lui, Veshameru Derech Hashem, et qu'ils observent la voie, Veroïe, de Dieu, la rassot tzedaka ou mishpat, pour faire agir la justice et le jugement, les maran avi Hachem à l'Abraham, afin que Dieu fasse venir sur Abraham et tachir libère Allah l'accomplissement des promesses qu'il lui a faites. C'est que, selon le texte biblique, il est bien évident qu'il n'y a d'autre Abraham qu'un Abraham qui annonce Moïse de la loi. Je voulais donner cette précision, la nécessité qu'Abraham vienne avant Moïse, 6 générations avant, a une autre économie dans la cohérence juive, mais je crois qu'il était nécessaire de le signaler. Bien, j'aurai peut-être l'occasion de revenir moi-même sur certains points, mais déjà, vous avez la parole, et elle vous est donnée dans la liberté de la loi.
Monsieur. Vous avez parlé de procès, j'aimerais quand même poser une petite contradiction sur le paragraphe fondamental. D'une part, au début de vous exposer, vous reconnaissez que Jésus est observé strictement la loi, dans une certaine mesure, et d'autre part, en ressentant de lui, vous vous permettez de vous en éloigner.
Ah oui. Et en quoi on s'en éloigne? Sur quel point?
Oui. On s'éloigne en disant que, en fait, je suis une loi.
Oui, attendez, alors, la question c'est que je dis que Jésus a été pour l'observance de la loi, et puis que nous les chrétiens, au fond, nous n'observons pas la loi, puisque par exemple nous en éloignons en observant. Pas les sites. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que le décalogue n'est pas aboli pour les chrétiens.
Non, pas du tout.
Oui.
Et deuxièmement, là, par exemple,
le sabbat. Plus fort. Ah, le sabbat, oui. Ah oui. Le sabbat. Oui. Ben, c'est sûr que.
Le sabbat, ça veut dire autre chose en français, le sabbat.
Est-ce qu'il faut que je traite la question du remplacement du Shabbat par le dimanche?
Pourquoi pas, ça nous intéresse.
Ça vous intéresse, hein? Ce qui s'est produit, c'est que progressivement, le premier jour de la semaine après la résurrection est devenu le jour par lequel était célébré la victoire de Dieu sur le mal, sur la fatalité, je le prends de manière très globale. Hein. Et donc, il y a eu une espèce de renversement d'économie. Moi, je ne le ressens pas comme très fondamental, mais si vous le ressentez comme très fondamental, vous allez me le dire. Par lequel, au lieu de dire, nous vivons sous l'économie de la création, selon laquelle Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, et en mémoire à la fois la libération d'Égypte et en mémoire de ce repos de Dieu, nous célébrons le Shabbat. Et la nouvelle économie, ou nouvelle ou ancienne, enfin, disons économie juive, économie chrétienne, ne mettons pas ancien ou nouveau, enfin, mettons deux choses. L'économie chrétienne dit, cette rédemption de Dieu qui s'est accomplie dans la résurrection de Jésus-Christ en signe de la victoire de Dieu sur les adversaires de Dieu et de l'homme, hein, qui sont le désespoir, enfin, toutes les puissances adverses, hein, c'est le dimanche qui va, c'est la rédemption qui va être célébrée, pas en rupture de la création, mais on pourrait dire en accomplissement de cette création. Alors, qu'il y a un gros débat, est-ce qu'il y a un énorme débat? Vous vous ressentez qu'au fond, les chrétiens, en célébrant le dimanche et n'observant plus le sabbat, vous êtes un peu comme les adventistes, hein, sont infidèles à ce qu'est la loi.
Ils seraient un peu comme nous.
Oui, ils seraient un peu comme vous, oui. Et nous disons, ce que représente au fond le dimanche, c'est l'expression, de même si vous voulez par exemple le baptême ou la circoncision, on peut prendre 36 exemples, hein. Nous avons ou la Pâque chrétienne ou la Pâque juive, hein. C'est sûr qu'il ne s'agit pas de vivre une confusion entre les deux, et je comprends très bien que vous vous dites le dimanche des chrétiens, c'est pas le Shabbat des juifs, hein, et en sens là. Mais ce que je veux essayer de dire, c'est qu'aux yeux des chrétiens, ce n'est pas une innovation païenne, mais dans leur idée, c'est de même que, si vous voulez, Jésus-Christ n'est pas une espèce d'innovation païenne, mais l'accomplissement des promesses messianiques, le dimanche n'est pas une innovation païenne, mais c'est l'accomplissement du Shabbat qui est la louange de la création. Vous voyez, enfin, mais je ne peux pas vous convaincre, mais je veux dire, je peux vous expliquer ce que je ressens. C'est-à-dire, je ne ressens pas ça comme un oubli de la loi de Dieu, je ressens ça comme la célébration de la même loi du même Dieu qui se présente sous une autre économie. Oui, monsieur. Je vais prendre beaucoup de questions parce que je vois 4 ou 5 lois.
Oui, vous voulez prendre 4 ou 5 questions?
Je vais prendre 4 ou 5 questions, oui.
Mais vous, à quel moment vous sentez ça?
Oui, monsieur, monsieur Prince, d'abord.
J'ai été frappé par quelque chose qui me paraît important, très important, disons, vous êtes tout permettra d'entamer le dialogue en profondeur, qu'il y a eu parallèlement de développement, un développement qui est un lieu, un développement qui est bien dramatique. Vous aussi, en disant, vous êtes d'accord avec ce point, la loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Bien sûr. Mais la question que je vais vous poser, la loi est faite pour l'homme. Quelle loi? La loi que Dieu a donnée. Dieu sachant quelle est la loi qui est bonne pour l'homme. Et je vous dis qu'à ce moment-là, le problème c'est de savoir comment interpréter pour pratiquer l'inverse. Je pense que c'est dans les deux interprétations différentes, l'interprétation dite talmudique de la loi, l'interprétation de la sacristie, de la loi, que vous voyez, les divergences se creuser. Quelle est l'autorité qui va décider à quel moment la loi donnée par Dieu faite pour l'homme peut être et la base de l'autorité pour le judaïsme. L'autorité qui va juger la loi est Dieu lui-même, puisque il y a une loi orale qui est ce qui va se constituer dans le Talmud et qui permet par conséquent au sage d'Israël qui, depuis Moïse, qui a reçu la loi de Dieu et qui en transmet le sens et les limites d'application, pouvoir transmettre à d'autres sages et leur permettre tout le long de l'histoire de. Donc, à juger la loi, mais de juger son application. Alors, quelle est, dans le système, l'autorité qui va permettre de commenter et d'appliquer la loi de telle sorte que, paradoxalement, à partir d'une loi qui est la même, donnée par le même Dieu aux hommes, et qu'il ne peut pas y avoir d'erreur en Dieu, d'accord, quelle est l'autorité qui va permettre d'arriver à
un résultat aussi. Très bien. Oui, Henri.
Oui, c'est vous, monsieur.
Il y a beaucoup de la discussion
plus fort.
Et de en relation avec moi, liberté, mais je voulais dire que c'est juste des gens qui s'adressaient à l'Église, donc il y a des gens qui m'y mènent, donc il y a des gens qui connaissaient très bien la situation, par conséquent, ils étaient contentés de faire des remarques et d'accentuer, de mettre en évidence des points qui paraissaient très importants. Ensuite, c'est que le fait, et de tout cas, je rejoins un peu la pensée de monsieur, c'est-à-dire que je pense qu'il était à Ali. Presque plus rigoriste que même les pharisiens. D'ailleurs, ils le reprochaient, ils disaient, dans une vie, ils disaient, faites ce que disent les pharisiens, mais ne faites pas ce qu'ils disent, car ils font,
ne faites pas ce qu'ils font.
Il était plus rigoriste que eux. Et que, ensuite, si la religion, ne donne pas une législation dans un certain nombre de domaines, ça veut dire que quelqu'un d'autre est en charge. Et le sens que, dans ce cas-là, en général, c'est l'État. Et c'est ce qui se passait d'ailleurs à l'époque. C'est un des reproches qu'on peut faire. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de législation, à la tête de législation, c'est en fait des barrières, c'est tellement vrai que l'Église s'est empêchée, par la suite, d'amener elle-même sa propre législation. Je parle notamment d'un domaine social. À l'époque, justement, les juifs qui, eux, ne voulaient pas être associés, qui, un pouvoir autre que. Que la religion de Dieu, sans médiateur, c'est-à-dire sans intermédiaire de l'État, c'est pas bien, mais attaché particulièrement à l'État. Et on va laisser ça pour cette remarque, on pourra chercher plutôt sur les détails par rapport à ce fait, notamment en ce qui concerne la circoncision. La décision qui a été prise par Paul de Tarse, contre le consentement d'ailleurs de la communauté chrétienne.
Servir à cette conclusion, il ne s'engage pas lui-même, c'était une démarche politique, religieuse. C'est-à-dire que ça n'avait pas été une préoccupation d'ordre religieux, théologique, mais simplement une préoccupation politique. Et je ne dis pas dans le sens des droits, mais politique dans le sens de permettre une plus grande extension du christianisme.
Bien, mademoiselle, et puis ce sera le. Oui, en même temps ou après tout. Plus fort. Madame Baer, puis on arrêtera là le... essayer de répondre à... Il y a beaucoup de choses, je vais répondre respect précisément, mais sûrement incomplètement. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que Saint Paul, puis pourquoi est-ce que le christianisme, et puis Saint Pierre d'ailleurs avant Saint Paul, après le livre des Actes, hein, pourquoi est-ce que progressivement il y a eu... la circoncision n'est plus demeurée le signe distinctif de ce peuple chrétien qui se voulait lier au même Dieu saint que l'était le peuple juif. Alors vous dites que c'est une question politique, parce qu'au fond il a voulu universaliser la prédication, et donc pour universaliser la prédication, il fallait bien qu'il s'adresse aussi aux non-circoncis, et il fallait bien qu'il dise, à ce moment-là, la circoncision ne compte pas, n'a pas d'importance décisive. Et c'est vrai qu'il y a eu des tensions, vous connaissez l'histoire de l'Église primitive, il y a eu le fameux problème, c'était d'ailleurs le premier concile de Jérusalem, ça a été de savoir si effectivement il fallait maintenir l'exigence de la circoncision comme un préalable à la conversion au christianisme, c'est-à-dire ce qu'il fallait d'abord que les païens se fassent circoncire devenant juifs, et puis à ce moment-là, éventuellement, pouvoir devenir chrétien. Moi, je répondrais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ça a été très difficile pour les chrétiens, votre question, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu d'emblée. Pour eux, ça a été un... Il a fallu, on voit ça dans le début du livre des Actes, il a fallu qu'ils constatent, je raconte comme sont les choses, qu'ils constatent que le Saint-Esprit était donné aussi aux païens pour qu'ils se disent, mais au fond, les païens appartiennent aussi
à l'histoire de Jésus-Christ, et pas seulement les Juifs. Ils étaient très Juifs. Hein, et l'idée que le peuple de Dieu pouvait s'étendre au-delà des circoncis, la fameuse phrase de Paul dans les Galates, « En Christ, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme », les trois mots sont en même temps, hein, ça a été une chose difficile à reconnaître pour les chrétiens, ce qui prouve que, à leurs yeux, la circoncision était quelque chose de très important. Alors, je crois, mes deux réponses sont ceci, je ne pense pas que c'était un... Mais je ne veux pas plaider, enfin, je le dis déjà. Je ne pense pas que c'était un calcul politique. Je pense que ça a été, à leurs yeux, la découverte que maintenant, l'Évangile allait pour toutes les nations. C'est ce qu'on veut, si vous voulez, le côté que l'Évangile venait des... que la parole de Dieu venait des Juifs, mais qu'elle se destinait à tous les peuples, et que donc la circoncision juive était une des choses, mais que l'Évangile débordait au fond le monde juif et le monde des circoncis. Et puis la seconde chose, c'est sûr que ce qui a remplacé la circoncision, c'était le baptême. Et pas comme une sorte de rite, alors je ne sais pas comment dire, pas comme un remplacement, mais comme étant le baptême, au fond, c'était l'association de l'homme naturel, païen, de provenance de la conscience ou de provenance de la loi, c'est-à-dire venant ou du monde juif ou du monde non-juif, son association de sa vie à cette histoire de Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est pourquoi le baptême, c'est noyade dans l'eau, mort et sortir de l'eau. Alors, c'est sûr que qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, c'est un baptisé, qu'est-ce que c'est qu'un juif, c'est un circoncis, et il faut que l'un à l'autre se rende compte du sens que ça a pour chacun. Vous voyez, c'est sûr qu'il y a eu, c'est le même problème que tout à l'heure au niveau Shabbat. Le chrétien n'a pas le sentiment qu'en supprimant la circoncision, il supprime le signe d'appartenance à Dieu. Mais il a le sentiment que c'est maintenant le baptême, volontaire d'ailleurs, baptême d'adulte, surtout dans les premiers temps de l'Église, qui est l'engagement de sa foi dans cette appartenance. Voilà, en gros, la réponse sur ce point-là, il faudrait le débattre beaucoup plus, mais c'est un peu comme ça que je le sens, comme un rite en remplace un autre, sinon. Alors, le second point, la question du docteur Prince, comment juger des modifications de la loi ? Poser une énorme question, parce que aucun d'entre nous ne doit modifier la parole de Dieu. Dans un certain sens, si par exemple on disait, si je venais dire, c'est finalement l'Église qui juge, moi je dirais beaucoup plus, mais je crois d'ailleurs que beaucoup de catholiques le diraient comme moi, mais comme protestant je le dirais très fortement, c'est l'Écriture qui juge l'Église. C'est pas l'Église qui transforme l'Écriture. Hein. Il y a Église, là, il y a communauté croyante, là où il y a des hommes qui cherchent dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, de quoi nourrir et orienter leur vie. Ceci dit, c'est vrai qu'en chaque siècle, il faut que nous actualisons ça. Alors, vous vous dites, nous le faisons par les sages d'Israël. Nous le faisons, moi, je dirais, par deux choses. Nous le faisons, d'une part, en étant très attachés à l'argument scripturel, à l'argument biblique, hein. Les études bibliques, quelquefois même, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que les commentaires des sages d'Israël ont rajouté, quand j'entends une leçon talmudique, hein, je me dis, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on a dit au XIIIe siècle, qu'est-ce qu'on a dit au VIe, et ça. Mais enfin, ce qui m'importe, c'est le texte. Voilà. Et l'argument scripturaire est, je crois, chez nous très important. Et la seconde chose, alors ça vous paraîtra effectivement... c'est difficile à bien nuancer. La seconde chose, c'est ce que Calvin appelait le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est-à-dire le fait que l'Esprit de Dieu vient aujourd'hui pour, j'irais volontiers, comme la parabole des ossements chez Ézéchiel. Moi, je dirais, le texte, c'est les ossements. Et le souffle de l'Esprit, c'est ce qui fait que ces ossements deviennent paroles vivantes pour aujourd'hui. Et s'il n'y a pas les ossements, c'est l'imagination religieuse. Il faut partir des textes. Mais il faut l'esprit pour que ces textes deviennent aujourd'hui vivants. Et donc, je me servirai. Enfin, la double autorité pour moi, c'est comment une parole de l'Écriture devient aujourd'hui comment un texte de l'Écriture devient aujourd'hui une parole vivante par la puissance de l'esprit dont je pense qu'il existe. Enfin. Où trouver le souffle? ces panneaux, il souffle où il veut, vous savez, le fameux truc, le vent souffle où il veut, hein. Je suis incapable, moi je refuse complètement de dire le souffle est dans tel groupe, ou il est dans tel magistère, ou il est dans telle tradition. Je crois que le souffle de Dieu, ça s'atteste par l'autorité que prend un... Tout à coup vous dites, mais c'est vrai ça. Mais je ne suis pas juge, c'est pas moi qui le crée, c'est pas moi qui me souffle ou qui m'enfle, hein. Mais c'est le souffle qui fait que telle chose devient par ailleurs. Mais je rappelle quand même que la basse scripture est très importante pour nous. Sinon, nous tomberions dans ce qu'on appelait au XVIe siècle l'illuminisme, c'est-à-dire on remplace par peur du littéralisme, on se sert de l'illuminisme et chacun fait passer pour parole de Dieu ce qui, au fond, ses propres illuminations peut être très attachantes, mais enfin pas forcément de Dieu. Hein. Vous voyez, alors, il y a là un double jeu entre l'être et esprit. C'est un peu comme ça que je répondrai. Et ma question inverse, ça serait, mais qui vous prouve que la loi orale n'est pas des commentaires des hommes, comprenez ? Enfin, à mes yeux, enfin, je me dis, les sages d'Israël, je veux bien, mais après tout, peut-être qu'ils ne sont pas tous sages. Et, vous voyez, mon problème, c'est...
C'est celle qui vous prouve que la loi écrite vient de Dieu. Vous pouvez aussi poser la question.
Naturellement, c'est la foi qui nous le prouve. Mais tout de même, ce sont la loi de Dieu, c'est des témoignages d'événements révélateurs. Enfin, de même, il me semble qu'il n'y a eu qu'à Moïse, il n'y a eu qu'à Jésus-Christ. Enfin, je suis très attaché à l'idée que le Dieu biblique s'est révélé par des événements qui ont eu des témoins et des prophètes. Tandis que la pensée grecque, c'est plutôt des pensées intemporelles, des hommes qui, vous voyez, il y a eu un temps de révélation, et nous ne sommes pas dedans dans la révélation, nous sommes tant dans l'actualisation de la révélation. Enfin, je mets une différence là. Bon, je réponds très vite à tout, parce que sinon je vais frustrer beaucoup de gens, puis quand vous n'êtes pas content, vous me le redirez après.
Oui, répondez d'abord.
Je réponds tout, mais je réponds vite, je vous promets. Alors, la troisième question, c'est... Oui, s'il n'y a pas de loi, on va tomber sous les lois des États environnants. Là, il y a un énorme problème entre nous. C'est que les chrétiens... C'est ce que disait l'épître à Diogenète, hein. Il disait, les chrétiens sont comme les restes des hommes, ils obéissent à la loi de Dieu, mais pour tout ce qui est au fond les lois du monde, ils sont dans les états du monde. Nous n'avons pas de théocratie. C'est un énorme problème difficile d'ailleurs. Nous ne croyons pas que l'on puisse trouver dans la Bible, c'est la fameuse parole, se rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, qui ne veut pas dire que Dieu ne règne pas sur le monde, mais qui veut dire que les chrétiens ne peuvent pas déduire, à mon avis, une théocratie des textes bibliques, puisqu'ils ont à vivre au milieu de gens qui ne sont pas croyants. Hein? Nous ne formons pas un état que de chrétiens, et donc nous vivons en diaspora. Sûrement, sûrement. Alors, le grand texte de Romains 13, hein, « Soyez soumis aux autorités telles qu'elles existent », ça ne veut pas du tout dire que ce sont des autorités religieuses, ça veut dire que ce sont des autorités qui jouent le rôle de protection de la cité ou d'exercice de la justice, même étant des autorités païennes. Païennes, c'est un peu le côté de la conscience, ça c'est sûr. Alors, deux dernières questions. Votre question importante, hein, est-ce que les chrétiens ont réduit les lois trop difficiles? Moi, je ne veux pas me défendre, je ne sais pas. Je veux dire, quiconque réduit est quelqu'un qui, au fond, n'écoute pas la plénitude de l'exigence de Dieu. Maintenant, je ne crois pas non plus que... Je ne suis pas convaincu quand même de la multiplicité des lois. Je voudrais que vous, avant de sortir et finir cette réunion, que vous me disiez l'un d'entre vous, pourquoi vous êtes passé de 10 à 613? Vous voyez mon problème, enfin, non, je le dis simplement, enfin, comment ça se fait, quoi, vous comprenez? Bon, c'est la dernière question, puis j'ai fini. Alors, vous posez une question très importante, madame... Mais pourquoi vous ne voulez, ça aussi l'interrogation, pourquoi est-ce que vous, pour moi, quand vous dites justice et miséricorde, avec miséricorde d'abord, Dieu est miséricordieux, et c'est comme ça qu'il me demande d'être juste. Pourquoi vous ne pouvez pas dire pareillement, Dieu donne la grâce, et c'est à cause de ça qu'il me demande d'obéir à la loi? Je ne vois pas la différence. Votre tandem, ça a été que vous pouviez bien accepter l'ordre miséricorde-justice, mais que vous ne pouviez pas accepter l'ordre grâce-loi, je ne sais pas pourquoi.
Voilà, j'ai voulu faire vite. Si vous permettez.
Ah oui. Pour nous, la grâce, c'est que nous ne méritons pas la rédemption, mais qu'elle nous est donnée en cadeau. Et en ce sens-là, pour moi, je trouve que la grâce est le plus grand mot de toute la Bible. Enfin, Dieu est grâce, c'est donne grâce. Et la loi, c'est ce Dieu qui me donne cadeau d'un salut que je ne mérite pas, je lui rends honneur et gloire et reconnaissance en lui faisant plaisir. Je trouve très important que la loi, c'est pour faire plaisir à Dieu et non pas pour mériter le salut auprès de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que je le sens.
Et si vous permettez, je n'ai peut-être pas le droit, selon la loi, mais je voudrais intervenir brièvement par quelques phrases pour essayer de centrer ce point du débat qui me semble extrêmement important. Je vais peut-être être un peu étonnant ou dépaysant, je ne sais pas. Mais vous êtes beaucoup référé à saint Paul et c'était normal. Or, à partir de l'enseignement de saint Paul, eh bien, apparaît le schéma suivant. Que la loi, telle que les juifs l'ont considérée, et nous ne sommes pas passés de 10 à 613, c'est d'emblée que la Torah a 613 commandements, c'est un problème sur lequel on pourrait débattre, eh bien, la loi aurait été pédagogie de la grâce. Et il y a donc un schéma historique et logique, théologique, que nous entendons très souvent de manière presque identique, venant des protestants, des catholiques ou des orthodoxes. Il y a eu d'abord le temps de la loi qui a été formateur pour permettre de passer au temps de la grâce. Or, je reviens à mon schéma d'Abraham et Moïse. La conception juive traditionnelle de ce problème est la suivante. Il y a d'abord le temps de la grâce. J'emploie ce terme en français, mais avec son sens juif, mais pour que formellement nous relisons. Et qui commence à Abraham. Et nous considérons le temps de la grâce comme étant le temps de l'enfance, ceci n'ayant rien de péjoratif. Et puis voilà que l'humanité, à travers Israël, au temps de Moïse, accède à la majorité et reçoit la loi et l'accepte. Et j'ai l'impression que la conscience ne serait pas, c'est un mot grec, donc, mais disons l'existence chrétienne est encore au temps de la grâce et n'a pas accédé encore au temps de la loi. Et qu'il faut donc, pour que nous comprenions, inverser le schéma. C'est-à-dire que ce que nous appelons la grâce avec Abraham, Chesed, eh bien, est indispensable. Mais la grâce n'est pas, une réalité de l'ordre du sacrement, du sacré. La grâce, c'est le fait que Dieu nous crée et nous donne l'être. Et nous reconnaissons d'abord le Dieu d'Abraham, de qui nous recevons l'être en grâce. Et ensuite, nous accédons au niveau de la loi, et c'est là qu'est la majorité religieuse. Ce que je voulais ajouter, et ne prenez en rien en cela de péjoratif, il nous semble que de toutes les nations, les hommes et les femmes qui sont venus vers la loi de Moïse, vers le Dieu d'Abraham, selon la prophétie d'Isaïe, et ils auront des places comme les fils et les filles. Vous vous rappelez 64-65 Isaïe. Eh bien, au temps où cela est arrivé, que la bonne nouvelle a été entendue, que le salut vient de Jérusalem, que le salut vient des Juifs, comme dit l'Évangile, ces hommes et ces femmes sont allés dans l'apprentissage de la grâce vers ce salut par la loi, et qu'ils ont rencontré un obstacle, et que la conscience chrétienne est encore, l'existence chrétienne est encore dans ce temps de l'enfance de la grâce, et puis peut-être ressent déjà l'exigence d'accéder à la majorité de la loi. C'est ce que nous entendons dans les préoccupations contemporaines de l'Église, de reconnaître un peu cela, que décidément, non, nous ne sommes pas déjà au huitième jour, le premier jour de la semaine qui serait le lendemain du septième, mais que nous sommes décidément dans ce septième jour dont parlaient les Juifs, et que par conséquent, il faut interroger l'Écriture pour savoir comment accéder à la majorité de la loi. Et là, je me borne vers une dernière question. Quand vous parlez de la réalité scripturaire, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de sadducéisme? Et oui, parce que c'est cela le sadducéisme. Lire le texte avec les dictionnaires. Et puis, bien entendu, nous comprenons ce que vous voulez dire avec l'aide du Saint-Esprit. Mais c'est là qu'il faut se... Nous dirions l'Esprit Saint. Mais enfin, c'est un autre problème. Et alors, je vous pose une question naïve, innocente. Et quand vous avez besoin de...